Vous écoutez
RMC. RMC. After Foot. Intégrale Coupe du Monde.
Intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamin.
Avec Coach Courbis, Kevin Diaz, merci de nous écouter. Il est 21h05 à Paris, 23h05 ici à Doha, au Qatar, dans le studio RMC. Julien Laurence est toujours à mes côtés et nous a rejoint Flo Germain. Salut Flo.
Salut Nico, salut les gars, salut à tous.
Tu as couvert les conférences de presse aujourd'hui des Néerlandais et des Argentins. Oui, parce que tu es aussi hispanophone. Voilà, j'explique pour ceux qui ne connaissent pas ta vie privée. Tu es aussi un peu espagnol.
C'est mon seul argument. Aucune compétence journalistique, mais je parle un peu espagnol.
Flo, je rappelle, demain affiche à 16h, premier quart de finale du mondial Croatie-Brésil, sera sur RMC. Et donc à 20h, Pays-Bas-Argentine, attention au piège néerlandais, plus pragmatique et défensif que jamais. Le vrai premier gros test pour les Argentins et pour Léo Messi. Cette question, le septuple ballon d'or peut-il encore élever son niveau face au mur néerlandais? On en débat dans un instant. Flo est avec nous. Dans un instant, les conférences de presse néerlandaises et argentines. Georges Quirino est là également. Salut Georges.
Hola, hola, salut à tous.
Salut Georges. Georges qui voilà.
Que pasa, boludo.
Dans plein concert en fait.
Que pasa, boludo.
Ça y est. Flo, bon, les gars, il est des Argentins, il est devenu
j'ai
argentin.
J'ai pris un mot hier, boludo. Il m'avait échappé celui-là.
Ça veut dire quoi
bah, c'est Georges, hein. Moi, c'est... les traductions, c'est Georges.
Bah, boludo, en fait, c'est genre mec. Tu vois, c'est un truc qu'ils utilisent. Ouais, on va dire en moins sympa, c'est ça, ouais. Mais ils l'utilisent tellement qu'en fait c'est plus utilisé genre mec. Genre en chaque fin de phrase, genre qu'est-ce que t'as, boludo? Ça va, boludo?
Qu'est-ce que t'as, boludo? Magnifique.
Donc on peut pas
c'est le frérot de Juju.
Ouais, c'est le fraté de.
Je sais pas si c'est aussi affectueux que frérot, peut-être. Si, boludo, si c'est pas.
En fait, ça dépend comme tu le dis. Ça dépend comme tu le dis. Si tu dis, mais le vos sont boludo. Là, c'est un peu violent, tu vois.
Ça veut dire espèce d'idiot. C'est ça?
Non, c'est ça.
Peut-être parfois. Georges, notre correspondant à Buenos Aires, je précise, d'où il nous appelle, Georges Quirino. D'ailleurs, demain, ce sera à Lusail, le stade qui accueillera la finale. On a vu 40, 50 000 supporters déjà pour l'Argentine-Mexique. Est-ce que ce sera la Bombonera demain, Flo?
On attend 50 000 supporters argentins. Il y en avait 30...
sur 90 000 places.
Ouais, 89 000 places. Il y avait 35 000 supporters argentins sur la phase de poule. En plus, ils l'avaient annoncé. Hein, c'était les chiffres de l'ambassade ici, donc ils n'ont pas menti. Et ils disaient qu'il y aurait une nouvelle vague si ça se qualifiait. Effectivement, il y en a apparemment qui avaient pris le risque. C'est ce que m'a dit un journaliste. De prendre des places à partir des quarts de finale. Bon, ils ont peut-être eu un petit coup de chaud après le match contre l'Arabie Saoudite, mais a priori, ça arrive. Et effectivement, minimum 50 000 Argentins face à 2 000 Néerlandais. Donc, rapport de force impitoyable en faveur de l'Albicéleste.
C'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a pas évoqué, Georges. On parle de pouvoir d'achat, souvent en Argentine, qui est en pleine crise économique. Comment tous ces supporters argentins arrivent à se financer un tel voyage? On traverse quasiment le monde, le coût de la vie ici au Qatar. J'imagine que tu as bossé également là-dessus.
Ouais. Ouais, dans un pays où le salaire minimum n'est pas supérieur à 400 euros, je crois, si on utilise le taux de change, dans un
comme
pays
ici,
à 80%
d'ailleurs.
D'inflation. Donc, en fait, il y a beaucoup de supporters qui économisent depuis 4 ans, par exemple. Moi, j'en ai rencontré avant le début de cette Coupe du Monde. Ça représentait pour beaucoup entre 6 000, parfois même 10 000 euros. Donc, imaginez ce que c'est. Donc, c'est pour ça que la plupart sont logés à 30 km au sud de Doha, dans le lotissement le plus économique de la Coupe du Monde. Je crois qu'ils payent ça 40 euros par nuit, mais pour eux, quand même un coût énorme. Donc, la plupart des supporters argentins avec qui je suis en contact, je peux vous dire qu'ils font pas grand chose sur place. Hein. Ils utilisent le métro parce que c'est gratuit. Ils vont à la plage, ils vont au supermarché acheter 2-3 trucs et ils restent à l'hôtel. Donc, c'est sûr, ils vont pas aller dans le désert avec le 4x4, aller faire des tours en chameau. Donc, ça dépend de ceux qui ont le pouvoir d'achat. Donc, mais c'est vrai qu'en tout cas, il y a des vagues de supporters encore qui sont partis, comme le disait Flo. Ici, on a vu à l'aéroport ces deux derniers jours des centaines de personnes qui partent. Après, ceux qui partent maintenant, je pense que c'est quand même ceux qui ont un pouvoir d'achat assez important. Et parmi les Argentins, il y en a beaucoup qui sont aussi des Argentins qui sont expatriés depuis des années en Europe, dans les pays arabes. Donc, ceux qui ont un pouvoir d'achat un peu plus important. Mais il y en a quand même qui ont un pouvoir d'achat très petit et qui se sacrifient parce que pour eux, ce que je me rappelle, un supporter me disait, c'est un devoir moral d'aller au dernier mondial de Messi.
C'est ça. Mais si justement Van Persie dans un instant peut-il encore élever son niveau face au mur néerlandais, premier gros test pour lui et l'Albi Céleste. D'abord, Flo, tu étais en conférence de presse de l'Argentine, des nouvelles. Il y avait un doute sur Rodri De Paul et sur André Di Maria.
Je pense qu'il y a toujours un petit doute, honnêtement. Alors la conférence de presse, on a vu un Lionel Scaloni un peu agacé parce que la presse argentine hier a sorti une info, ils ont fait leur taf et bravo à eux du fait que Rodrigo De Paul avait une petite gêne à la cuisse. Il a pas aimé, il a même beaucoup insisté en disant non mais on fait quoi là, on joue contre notre camp, on rend service aux Néerlandais en sortant cette info. Non, c'était à huit lots, je confirme rien, etc. Donc un peu agacé. Et aujourd'hui, il y avait un petit quart d'heure ouvert à la presse, le quart d'heure classique. Faut pas non plus se fier uniquement au fait qu'ils étaient là, mais ils étaient là. Di Maria, quand je dis il au pluriel, Di Maria et donc Rodrigo De Paul. En plus, il avait l'air plutôt souriant, plutôt détendu, plutôt bien dans son début d'entraînement, Rodrigo De Paul. Di Maria aussi, lui qui était forfait, on le rappelle, lors du dernier match aussi pour une gêne à la cuisse. Donc, en discutant avec pas mal de confrères argentins, eux pensent qu'ils vont au minimum être dans le groupe. Il y a un peu plus d'espoir même pour De Paul peut-être, qui en plus est un joueur assez important et qui au final n'aurait pas manqué tant d'entraînement que ça par rapport à Di Maria. Donc voilà, petit vent d'optimisme ce soir, mais je sais pas ce qu'en pense Georges, pas sûr qu'il soit titulaire, en tout cas les deux.
Ouais, non, c'est ce qui se dit ici effectivement dans la presse, comme tu l'as dit Flo, Scaloni n'est pas du tout content et ça fait des débats ici en Argentine sur est-ce qu'il faut dire ou pas quand les joueurs sont blessés ou est-ce qu'il maintenant il faut tous être derrière l'Argentine. Il y a des gros débats sur le travail journalistique en fait. Est-ce que les journalistes doivent protéger la sélection ou est-ce qu'ils doivent faire leur travail tout simplement parce qu'ils sont pas des supporters mais ils doivent aussi donner des informations. Les infos qu'il y a ici, les dernières qui tournent beaucoup, c'est que oui effectivement il y a peu de chances que les deux soient titulaires ensemble parce que Scaloni privilégie l'état physique des joueurs, il veut des joueurs à 100%. Si Di Maria n'est pas titulaire, il pourrait même y avoir un changement de système. Ça c'est quand même une information, et jouer à 5 derrière, on sait que Scaloni sur les 4 matchs, à chaque fois qu'ils ont mené au score, ils sont passés à 5 derrière, sauf sur le premier match je crois. Donc en fait le remplaçant de Di Maria pourrait être Lisandro Martinez pour faire une défense à 5.
Calqué sur le système de Lisandral d'ailleurs, ce serait.
Et Lisandro qui connaît bien les Pays-Bas.
Donc 0-0 tir au but quoi, comme en 2014 quoi.
Ouais,
c'est bien possible en tout cas.
Mais en tout cas, c'est la présence de Di Maria et de Paul ici, évidemment, tout le monde croise les doigts pour qu'ils soient au moins disponibles pour ce match-là.
On va savoir ce que Lionel Messi a dans les jambes dans ce duel. Enfin, c'est le premier gros test pour sa sélection et pour lui aussi. Il a alterné le très bon, le bon, le moins bon également. Pas non plus rendre son mondial pour l'instant totalement idyllique. Il a porté l'équipe contre le Mexique notamment. Il est sorti de la mouise, comme on dit. Georges et Flo va m'en parler également. Il m'en a déjà parlé il y a quelques jours après le match face au Mexique. On découvre, nous, un Messi en sélection extrêmement décontracté, qui a l'air plus épanoui que jamais, malgré la pression et immense qui pèse sur lui. Est-ce que c'est ton sentiment également?
Ouais, lui-même l'a dit, il a répété pas mal depuis le début de la Coupe du Monde et dans toutes les interviews avant le Mondial. Messi se sent bien dans ce groupe, même avant la victoire en Copa América. Lui, quand il avait fait une petite pause après le Mondial 2018, après la dépression post-élimination contre la France, et quand il est revenu, lui déjà s'était mis dans d'autres dispositions. Il avait dit dans les interviews que voilà, je me suis dit qu'il faut que je me rapproche des jeunes, il faut que je m'ouvre un peu plus. Il a trouvé en plus un groupe qui on va dire a un peu décroché le poster Messi et se sont rapprochés de lui, des joueurs justement comme Rodrigo De Paul qui sont allés toquer à sa porte pour lui dire tu viens prendre un maté, comme si t'étais un joueur comme un autre finalement. Et finalement ils ont un peu désacralisé Messi, et Messi se sent à l'aise maintenant dans ce groupe là où en plus il faut quand même prendre ça en compte, désormais c'est le plus âgé sur le terrain, à part Armani dans le groupe, le gardien de but, c'est le joueur le plus âgé. Il y a plus des cadres derrière lesquels peut-être lui se cacher, comme Javier Mascherano par exemple qui prenait beaucoup de place dans le groupe. Donc aujourd'hui il se sent vraiment en capitaine de cette nouvelle génération en plus, et on l'a vu sur la dernière Copa América. Évidemment, la victoire en Copa América l'a complètement débloqué à tous les niveaux, avec le groupe et avec le peuple argentin également, où maintenant il y a une connexion absolument incroyable.
Flo, toi qui le suis aux entraînements depuis le début de ce mondial, les conférences de presse, les zones mixtes après match, les matchs, tu m'as dit l'autre jour, Léo Messi, je vois que c'est sa dernière Coupe du Monde, il prend le temps de parler à tout le monde.
On va se fier à ce qu'on voit, parce qu'après on n'est pas dans les secrets toujours du vestiaire, mais moi ce que je vois, au-delà du fait que le match contre le Mexique, je te l'avais dit, on en avait parlé en plus, je crois que tu étais au stade, Nico.
Tout à fait.
J'avais ressenti un truc que peut-être que tu peux ressentir vraiment qu'au stade, c'est ce poids qu'il y avait avant le but de Messi. Donc comme vraiment ce sentiment qu'il a libéré toute son équipe après ce but et que il y a un poids qui s'est enlevé des épaules. Enfin, c'était criant en fait. Juste après le but, c'était plus la même équipe. Tout d'un coup, ça courait plus vite, c'était plus léger, tout allait mieux. Donc déjà, faudra jamais oublier ça, quoi qu'il arrive dans cette Coupe du Monde. C'est Messi qui lance la Coupe du Monde de son équipe. Et après, moi, ce qui m'a frappé en zone mixte, en plus Julien, c'est ce que c'est. Les zones mixtes, elles sont interminables dans cette Coupe du Monde. Je sais pas combien. Enfin, c'est tu vas à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche.
Zone mixte, c'est zone d'interview.
Zone d'interview, pardon.
Les joueurs passés.
Zone d'interview, tu attends les joueurs avec. Faut s'imaginer, je pense peut-être 300 journalistes qui attendent par petits poules en fait, par petits groupes. Les radios qui ont les droits télé, les télés qui ont les droits, les radios qui ont les droits, ceux qui n'ont pas les droits, la presse écrite, les Anglais, les Espagnols. Et il fait l'effort de s'arrêter tous les 4 mètres.
Incroyable.
En fait, il a des repères. Il a une journaliste argentine avec qui il est en confiance, un autre sud-américain, je sais pas s'il est argentin, mais ça se tape une bise, ça fait 3 minutes sur la famille. Il y a aucune question sur le match, mais en fait, ça parle de tes enfants, c'est génial, on les a vus, ils sont heureux. Et lui, il sait ce qu'il faut donner, en fait. Il fait le métier avec le sourire. Et vraiment, quand je dis qu'il s'arrête 15 fois, il s'arrête 15 fois. Ça dure 15 fois 2 minutes, mais c'est un nouveau match qui commence. Et c'est souvent 2 heures après le match. D'accord. Donc le match il se finit à minuit. Moi je te parle de ça, il est 2h du matin heure locale. Et 2h du matin heure locale, il fait ses 45 minutes, il fait sa mi-temps journaliste. Et je pense que ça il ne faisait pas avant. Ouais. Non, mais moi j'ai mes repères, j'ai pris ma perche.
Il est malin.
Moi j'ai une perche.
Oh, Ludo. Non, il est malin, il a sa grande perche. Non. Il est malin, il a sa grande perche, Flo, donc il peut se mettre derrière.
Ouais, exactement. Moi j'ai dit aux Espagnols, je me mets avec vous parce que je vous comprends parfaitement. Il va s'arrêter aux Espagnols en général. Et j'ai
T'as tenté une question ou pas pour l'instant en zone mixte?
Sur Messi, ouais, mais je me suis pris un vent. J'étais un petit peu trop loin. Celui qui m'a. Non, mais celui avec qui ça se passe bien, c'est Rodrigo De Paul. Je sais pas, je crois qu'il aime bien ma casquette. Il m'a fait un petit clin d'œil un jour.
C'est quoi ta casquette?
Je sais pas, j'ai une petite casquette là que
casquette.
Donc il m'a reconnu, voilà,
c'est bien juste à la casquette de l'OM.
Et non, c'est une casquette normale. Et bon feeling avec De Paul. Et justement, si on peut l'entendre, Rodrigo De Paul, il parle de Messi. C'était après le dernier match contre la Pologne. Donc évidemment, il a fait, je pense, son meilleur match du mondial. Mais ça va au-delà ce que dit Rodrigo De Paul sur Messi, sur son ami Messi. Il raconte à quel point il est important pour le groupe.
Le match de Léo?
Que dire? J'ai plus les mots. C'était son 1000e match, il a 35 ans. Le foot est chaque fois de plus en plus puissant physique et il reste toujours le meilleur. Je peux juste l'admirer, le remercier d'absorber toute la pression pour nous laisser jouer, nous, tranquilles. Et pour nous, c'est une immense joie de l'avoir à nos côtés.
Absorber la pression, c'est ça que je voulais qu'on entende. Et Georges, je pense que tu peux confirmer. C'est-à-dire que lui, il absorbe tout ça, cette expérience de 5 Coupes du Monde, la pression médiatique évidemment, et les autres en fait, ils jouent leur rôle de joueur et il sert de guide, mais il sert à absorber cette tension-là. Et franchement, je trouve que les mots de De Paul, ils résumaient bien ce que ressent le vestiaire argentin autour de lui.
Georges.
Ouais, de Paul en plus, c'est son bro, c'est son frère, son frère de sang, son garde du corps. C'est tout ce que vous voulez. Ici en Argentine, on dit que dès que Messi va quelque part, De Paul est forcément pas loin, et c'est comme ça dans le groupe, c'est vraiment son grand ami. Oui, Messi, voilà, ce qu'il répète vraiment depuis des mois maintenant, c'est la dimension de plaisir. Il veut prendre du plaisir, parce qu'à chaque fois la Coupe du Monde, ça a été pour lui un enfer, notamment il y a 4 ans, où justement il avait raté un pénalty face à l'Islande lors du premier match, il s'est traîné ça pendant tout le Mondial, et là il s'est dit, c'est le dernier, mes gamins sont là, toute ma famille est là, je veux leur montrer que je kiffe, et c'est ça que je veux transmettre aux autres joueurs, justement. Il est conscient de la responsabilité, comme tu le disais, Flo, de ce qu'il transmet aux autres joueurs. Donc, en gros, lui veut montrer, regardez, moi, je kiffe. Donc, les autres, si moi, je kiffe, les autres, vous devez kiffer aussi. Donc, je pense qu'il est tout à fait conscient, justement, du rôle qu'il a désormais dans le groupe. Et je pense qu'on va en parler dans quelques instants, Nico, aussi. Exactement. Ce qu'il a fait hier, notamment sur Twitch, montre également le Messi qu'on a aujourd'hui.
C'est ça dont j'avais parlé.
Vas-y, Julien.
C'est ça dont j'avais parlé, parce que les studios chez nous à ESPN sont juste à côté de ceux des RMC où on est là. Et donc, hier, je vais pour faire mon émission. Et là, il y a Kun Agüero qui travaille donc pour nous, pour ESPN Argentina. Et on trouve Kun sur sa chaîne Twitch avec Messi à l'intérieur donc du camp des Argentins, avec Papu Gomez, avec après Rodrigo De Paul qui est venu faire une petite apparition, on a vu Di Maria aussi. Et ça, je pense, Georges, il y a 4 ans, ça se serait jamais passé. Et je pense que aujourd'hui, effectivement, Messi dans cet état d'esprit là, beaucoup plus détendu,
pour deux jours avant un quart de finale de Coupe du Monde, ouvrir les portes comme ça à son grand ami, hein, Kun, c'est son ami, bien sûr. Mais quand même, d'ouvrir les portes comme ça à l'Argentine entière. Et puis après, tout le monde en a profité du côté de ESPN.
Ah, moi, j'ai halluciné quand Georges nous a alerté, regardé sur Twitch, et t'as un Léo Messi comme ça qui est ouvert au grand public. Avec des...
Mais est-ce qu'il a trouvé la touche Moutear, là? Parce qu'apparemment, il y a des questions d'Argentine là-dessus.
Ouais.
Il est pas habitué quand même, Messi, j'ai l'impression.
Non, mais il faut.
On est en train de m'expliquer à peu près.
Les gars.
Ouais, fallait... non, mais en fait, Moutear, c'est quand tu veux, je crois, bloquer le son.
Exactement.
En fait, il y a un échange. Tu vois Messi qui se rapproche de la webcam. Il se prend pleine poire la vidéo, en fait. Et tu sens qu'il galère et qu'il n'a pas l'habitude. Et là, il dit. Enfin, c'est une discussion que tu aurais entre deux copains, évidemment, dont l'un qui n'a jamais l'habitude de l'ordinateur et qui dit mais attends, c'est où la touche
bouton, qu'est-ce qu'il faut faire?
Papy Messi. Non, mais,
moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, Julien. C'était inimaginable il y a trop déjà parce que Twitch, ça n'existait pas. en tout cas, pas comme ça. Là, parce que c'est Agüero en plus. Et c'est vrai que même il y a 4 ans, il parlait même très peu à la presse Messi parce que tout l'environnement, même médiatique autour de lui, était même parfois assez hostile. Là, aujourd'hui, franchement, on ne peut pas toucher à Messi. Très clairement, je pense que même s'ils sont éliminés demain, les Argentins, c'est bon, Messi, il a payé sa dette envers les Argentins et tout le monde va le célébrer. Et désormais, c'est une idole ici, très clairement. Pas au niveau de Maradona parce qu'il a fait d'autres choses au-delà du terrain. Mais Messi, il est là désormais. Mais ce qui s'est passé hier, donc Agüero, il faut rappeler, c'est son ami, c'est celui avec qui il a toujours partagé la chambre en sélection. Donc c'est finalement celui qui lui manque aujourd'hui. D'ailleurs, Messi, il n'a pas de partenaire de chambre aujourd'hui, justement, pour montrer à Agüero, regarde mon pote, t'es plus là, mais avec nous, t'es toujours là. Et c'est pour ça qu'il a accepté de faire ce live hier avec Agüero, qui est un streamer aujourd'hui, très clairement sur ESPN notamment. Et écoutez, d'ailleurs, on a sorti un petit échange avec Jimmy Brown pour vous montrer un peu la teneur et l'atmosphère qu'il y avait sur cet échange sur Twitch. Il n'y a aucune information footballistique, hein. Il n'y a rien du tout. Mais il y a juste du lol, on va dire, des vannes, écoutez.
Ça va Léo, t'as fini de manger? Bien sûr. Qui m'aurait dit que j'allais faire ça avec toi? Tu me fais vraiment faire n'importe quoi, Kun. Toi t'appelles juste quand t'as rien à faire. Pour moi le capitaine a raison. Si tu savais, Kun, ils viennent tous faire la sieste dans ma chambre. Il n'y a plus de respect. Tu sais que Papou voulait se faire la coupe de Beckham, mais il ressemble plus à ma tante, Léo. On savait tous que c'était impossible. Comment il peut ressembler à Beckham?
Non mais c'est magnifique. Là je me dis, à quand un Twitch avec Benzema qui appellerait Mbappé?
Ça a duré 40 minutes, Nico. Ça a duré 40 minutes. Il y avait 250 000 personnes.
C'est
300 000 sur Twitch. Et c'était en même temps diffusé en direct sur ESPN Argentina. Donc, je pense qu'il y avait plus de 500 000 personnes au moins qui regardaient ça. Donc, évidemment, hier, tout le monde a parlé de ça. Et c'est même dans tous les journaux aujourd'hui. Ce Messi-là, proche de la nouvelle génération. Hein. Vous savez que, justement, Messi, c'est l'idole des jeunes, ici en Argentine avant tout, et qui n'ont pas connu Maradona.
Jeune argentin.
Et voilà, exactement. Donc, c'est pour ça qu'il.
On va parler terrain dans un instant. Georges, tu restes avec nous, on va parler terrain, on va parler tactique également. Est-ce que ce Messi-là peut se sublimer pour sa dernière Coupe du Monde face aux Pays-Bas de Virgil van Dijk? C'est intéressant, Julien, que tu sois resté là également. Tu vas nous dire comment tu juges ce début de mondial de Virgil van Dijk. Il a démarré comme un diesel. Ouais. Est-ce que ça va mieux maintenant? On en parle dans un instant avec Kevin et coach. Hein, je vous attends également là-dessus sur est-ce que Messi peut se sublimer demain 20h face aux Pays-Bas?
On va enfin parler, Nico, de l'équipe qui va se qualifier en demi-finale ou pas?
C'est prévu après, on va faire les Pays-Bas pendant un bon moment avec toi et Flo qui reste à nos côtés. A tout de suite dans l'after intégral Coupe du Monde, Paris 21h22, Doha 23h22 sur RMC.